Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bonjour à toutes et à tous, par ce matin un peu frais, mais enfin bon, c'est l'hiver. Eh bien, on va retrouver, pour quelques minutes, on va retrouver Bernard Lestargue. Alors, je veux rappeler qu'il est né à Bergerac en 1924, s'il arrive à retrouver, et qu'il est décédé non loin à 2018. Alors, il a obtenu l'agrégation, je vais le rappeler, d'espagnol. Il a enseigné à Paris puis à Lyon, où, dans le sillage de mai 1968, il ouvre un cours d'occitan. Alors, dès 1946, il crée une éphémère mais importante revue poétique qui fait la part belle à la poésie et la critique littéraire, les cahiers du Triton Bleu, dans lesquels publie des poèmes en occitan de la jeune génération. Et surtout une anthologie de la jeune poésie occitane qu'il co-dirige avec Robert Laffont. Alors, je vais passer un petit peu. Donc, c'est à Lyon qu'il crée en 1975 la maison d'édition Fédérope, qui le suivra ensuite en Périgord. En Fédérope, je le rappelle, édite des écrivains du monde entier, et notamment ses compagnons de littérature occitane, comme Max Rouquette, Bernard Mancier, pour ne citer que les plus connus. Alors, il est également reconnu comme traducteur, pionnier, et en ayant traduit en français les plus grands écrivains castillans ou catalans du XXe siècle. Alors, comme écrivain occitan, il publiera plusieurs recueils poétiques à la suite de Cap de l'Aigle, c'est-à-dire la tête de l'eau, et dans la collection Messages de l'IEO 1952. Alors, une partie de ses archives sont conservées à l'Université autonome de Barcelone, où une bibliothèque porte son nom. C'est une belle reconnaissance. Voilà, alors, pour en venir à quelque chose de, comment je pourrais dire, de plus près de nous, les éditions Nouvel Homme et au Périgord et la presse fédéraliste ont eu la bonne idée de publier ces rubriques occitanes publiées dans le journal Sud-Ouest de 1987 à 1990, et c'est une édition bilingue. Alors, sous le titre de « Je vous chauffe pas », c'est-à-dire, autrement dit, « Vous ne le saviez pas ». Voilà. Alors, donc, comme j'ai dit, alors, Nouvel Homme, c'est la section Périgord de l'Institut d'études occitanes, et c'est rue Béranger, au numéro 21, à Périgueux. Voilà. Alors, « Je vous chauffe pas », donc, comme je viens de le dire, rubrique occitane publiée dans le journal Sud-Ouest, et il y a une traduction et introduction de Gilles Arfi, Jean-Francis Billon, Françoise Dudognon et Jean-Claude Dugros. Et puis, il y a une préface, ma foi, de Germinal Perrault, qui est le président, évidemment, du Conseil de Général de la Dordogne. Voici un peu ce que nous dit cette préface. Il est des hommes comme des paysages de notre beau pays de Languedoc. Certains semblent touchés par une sorte de grâce, faisant d'eux des êtres à part qui se distinguent de leurs contemporains par leur qualité d'intelligence, de sensibilité, de culture, de fidélité à une cause d'humanisme. Et tel était Bernard Lestargue qui nous a quittés il y a maintenant 5 ans et dont nous célébrons le centenaire de la naissance l'an prochain. Alors je pense qu'on reparlera de Bernard Lestargue l'an prochain. Alors, son pouvoir de transmission était immense, à l'image de ses talents, tout à la fois professeur agrégé d'espagnol, enseignant au prestigieux lycée Janson-Sailly, puis en région lyonnaise. Le traducteur, poète, auteur de billets d'humeur dans le journal Sud-Ouest, ses chroniques sont l'objet du présent recueil, mais surtout amoureux fou, de la manière de ses chers troubadours, de son pays, de sa région, et de sa langue, et de sa culture. Alors cet article se poursuit ainsi. Très jeune directeur d'une revue qui fait la part belle à la poésie, à la critique littéraire, alors qu'il n'avait que 22 ans, c'est les fameux, donc on en parlait, les cahiers du Triton Bleu. Il communiquera son amour des langues et cultures occitanes et catalanes à des générations de passionnés, dont certains se confrontèrent à la politique, dès les terres de l'État franquiste, c'est avec courage qu'il résista à sa façon à la dictature en traduisant John Salès. Alors, il y a un quatrième de couverture, il y a bien sûr un petit article qui le concerne. Alors, je ne vous souviens pas. Alors, après le décès de Bernard Lessac, poète enseignant, traducteur, éditeur et militant politique, sa famille a découvert une centaine de textes publiés dans Sud-Ouest, donc de 1987 à 1990, en prose, majoritairement écrits en occitan et introduits par une annonce Nouvelle Occitane, chaque semaine désormais une rubrique occitane pour parler de la vie locale, échanger des idées, des informations, des nouvelles et pour le plaisir de retrouver la langue. Alors, l'auteur dont la vie explique la variété des sujets abordés, art, littérature, gastronomie, extrémisme religieux, frontières ou langues minoritaires. Commenter l'actualité en occitan pour prouver que cette langue peut être utilisée aussi bien pour parler de sujets locaux qu'internationaux. Michel et Bruno Lessargues souhaitaient une édition bilingue. Quatre amis de Bernard sont partagés la traduction privilégiant une langue proche de son occitan, alors familière quand elle l'est, plus littéraire quand elle est plus littéraire, et dans un français le plus français possible, car il faut, comme toutes les langues se valent, elles doivent être respectées. Voilà. Alors donc je vous ai donné aussi un peu la préface de Germinal Perrault, et il y a également dans ce livre une introduction. Alors je vais vous en donner évidemment quelques extraits. Alors, quelques semaines après le décès de Bernard Lessac, le 18 février 2018, sa famille a découvert, donc, comme je disais, dans son bureau d'église Neuf d'Issac, un dossier comprenant une petite centaine de textes publiés de 1987 à 1990 dans l'édition d'Ordogne du quotidien Sud-Ouest. Ces textes en prose ont tous la particularité d'être très majoritairement rédigés en occitan et sont parfois servis d'informations en français ou alternativement. Dans les deux langues, sur des événements locaux, le 19 novembre 1987, la première rubrique était précédée d'une brève annonce en français, Nouvelle Occitane. Chaque semaine désormais, une rubrique occitane pour parler de la vie locale, échanger des idées, des informations, des nouvelles et pour le plaisir de retrouver la langue. Alors très rapidement, Michel, sa troisième épouse, avec laquelle l'auteur s'est installé à Aix-les-Neuves-d'Issac, après son départ de Lyon et après une décennie à Paris, de 1944 et 1954, il avait passé la plus grande partie de sa carrière professorale et Bruno Lessargues ont souhaité que ses textes puissent être édités et édités en Périgord. Alors demande Jean-Francis Billon a écrit à la Direction Générale de Sud-Ouest pour demander les droits sur ces écrits d'autorisation du quotidien régional et de les faire traduire en français, des édités en édition bilingue. Et au service juridique de Sud-Ouest a très rapidement répondu positivement et accepté de renoncer à tout droit d'auteur, ce qui est bien et qui a permis donc d'éditer ce livre, Jou Chobiopa. Alors la presse fédéraliste ayant déjà coédité avec Nouvel Homme, Section Périgord de l'Institut d'études occitanes, un ouvrage partiellement bilingue de Madame Cathy Bernard, médiéviste et professeur à l'Université Montaigne de Bordeaux, il est paru tout à fait naturel aux responsables de ces deux associations de publier à nouveau le volume que vous avez entre les mains, Jou Chobiopa. Et vous ne le saviez pas, évidemment, en coédition. Alors on va voir un peu ce que nous dit ce texte. Alors, il y a un article qui s'intitule « L'Otsu, Lachon en français et Lachou en occitan ». Alors, comment je peux dire, donc, on prononce le « ché », alors « koilu l'Otsu ». Alors, ce matin, on voit ce qu'il nous dit dans cet article, ce matin, en cherchant les morilles sur une tournière de terre blanche entre deux zones, deux ornières de roues de tracteur, j'ai trouvé quatre petits pieds de l'Otsu, blottis entre les herbes et pierres. J'ai tout de suite reconnu leurs feuilles, plus dentées que celles d'un pissenlit, plus longues, plus tendres. Je les ai tout de suite reconnues, des amis qu'on ne peut oublier, même quand fantaisie leur prend à eux d'oublier le chemin qui mène à votre porte. Je me suis mis à genoux, j'ai coupé avec soin les feuilles étalées, aménageant le plus possible celles qui montaient et qui entouraient le cœur. Autrefois nous faisions, comme pour les pissenlits, nous emportions le pied entier, mais le lotsu, dans ma famille, nous les appelons kutsu. Bon, ça c'est peut-être en langue bergeracoise. Nous en avions plus que nous pouvions en manger. dans un mois ou deux, peut-être montera du cœur l'inflorescence et les fleurs bleues de chicorée s'ouvriront. La graine mûrira et l'an qui vient, d'autres petits coups de sous naîtront. Je les prendrai alors et leur donnerai un petit morceau de tournière, un morceau de cosse ras où ne passeront plus jamais les gros tracteurs et leurs multisocs qui les ventrent, les viscères. Alors le sol, il faut monter la terre sauvage et enterre pour toujours les racines hautes des koutsous. En attendant, j'ai emporté mes 15 feuilles, nous n'avons pas mis trop de vinaigre, tant pis, nous n'avons pas mis non plus de lard fricassé. Nous avons pris la pointe du pédoncule entre les doigts et nous avons mangé lentement, feuille après feuille, comme pour en extraire le goût. Mais tant pis s'ils ne comprennent pas les citadins, les grandes surfaces, les bourgeois des 4 étoiles, les esthètes de la nouvelle cuisine, les paysans au gros tracteur. Voilà. Alors donc c'était le Lotsou et ça a été publié le 26 novembre 1987. Alors on va continuer un peu cette lecture, je vais vous donner en français. Je vais, puisque c'est une édition bilingue, donc je vais garder le français. Et il y a, alors le 10 décembre 87, il y a une culture qui se désenclave. Un jour, il y avait un père qui avait 3 filles. L'aînée belle comme une fleur de mai, la seconde plus belle que l'aînée et la dernière plus belle que les 2 autres. Le père aimait énormément la dernière qui était aimable, aimable comme un morceau de pain. Un jour de printemps, radio et le père se chauffait au soleil. Alors il vit. Que vit-il? Vous aimeriez connaître la suite du conte? Eh bien, c'est très facile. Vous n'avez qu'à acheter le livre. Le livre intitulé « Contes populaires d'un pays de neige » et l'ouvrir à la page 26. Dans ce livre, vous trouverez aussi l'ogresse et les 3 enfants, la bru et la braise, le miroir, la tête de mort qui chante. Et je ne vais pas vous tout citer tous. Il faut aller à la découverte. Alors, et attention, pour une découverte, ce sera une découverte parce que l'auteur s'appelle Kazuko Tada, c'est une femme, je vous le précise au cas où vous n'auriez pas compris, chargée de cours à l'Institut Chao de Tokyo, mais cette dame a traduit des contes de son pays de neige en occitan. Il faut ajouter que ce n'est pas un coup d'essai, mais un coup de maître. L'an dernier, elle avait fait paraître Contes de mon pays, également traduit par elle. Ah, j'allais oublier le nom de l'éditeur, alors je vais quand même vous le donner, hein. C'est Suru Gadai Shupansha, pas facile à dire, et voici son adresse, donc c'est Shukurai 37 à Tokyo, au Japon. Voilà, alors il nous reste encore quelques minutes. Alors il y a, on va rester en 1987, et il y a un texte qui s'appelle Nodal. Alors Nodal, c'est Nodao, c'est la Noël. Quant à la tombée du jour, nous entendons sonner les cloches de Saint-Luce, qui nous reviennent en mémoire toutes sortes d'images, des souvenirs de notre enfance, des refrains de cantiques, et nous sommes comme baignés dans une atmosphère légère et tendue. Nous ne sommes pas encore entrés dans l'hiver, je veux dire dans l'hiver officiel du calendrier, et pourtant il y a quelque chose, je ne saurais dire, qui nous fait pressentir que bientôt va revenir la lumière. Alors en principe, Sainte-Luce, la lumière revient, enfin augmente à Sainte-Luce. Voilà. Et au tréfonds, alors je reprends le texte, donc de Nodal, et au tréfonds du souvenir, tout doucement, confusément, se lèvent des bribes de légendes dans lesquelles, si nous en croyons un poète, langue française, nous serions tous condamnés à mourir de froid. L'âne et le bœuf dans la crèche, les anges qui éveillent les bergers, l'étoile, les rois et Joseph prévenus dans la nuit qu'il faut s'enfuir parce que les soldats d'Hérode, on connaît la suite. Voilà, alors ça se continue comme ça, et voici une légende qui me bouleverse. Les bourreaux qui viennent faire un carnage, un massacre des innocents, et sur le point de rattraper les fugitifs. Joseph et la Vierge, qui portent le nouveau-né, rencontrent un homme qui mène son blé. « Courez-vous, belle dame, avec un bel enfant que vous portez, je voudrais le cacher, brave homme. Dites-moi si vous le pourriez. Mettez-vous sous ma capote, personne ne viendra vous y trouver. » Et retourne ton champ, brave homme, et il est urgent de couper le blé. En effet, en moins d'un quart d'heure, la paille avait grandi, les épis étaient formés, et sous les gerbes, le fugitif put se cacher. Quand arrive la troupe armée, on demande à l'homme s'il est déjà emmoissonné, il n'aurait pas vu une mère emportant son enfant. Si répond l'homme, quand je semais mon blé, ainsi disent-ils, c'était l'an passé, et Joseph le jeune et la jeune vierge et l'enfant furent sauvés. Alors, et on ajoute un peu, j'aime beaucoup cette légende, vous ne la trouverez pas dans les évangiles, fût-ils apocryphes, mais dans les rustiques chansons d'autrefois. Voilà, alors je crois que mon temps est terminé, donc on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Bernard Lessac dans Joshobiopa. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et quand même, n'oubliez pas votre cache-colle parce qu'il ne va pas faire très chaud. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.